On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Salut Elvira, ça va? Salut Antoine.
Salut François.
Comment vous allez?
Bien.
Alors, on est en plein cœur du 18e arrondissement. Le métro Guy Môquet est pas très loin. Et on est devant le 180 rue Ordener avec une façade à l'ancienne.
Alors, attends, j'ai un doute. Là, tu nous emmènes quand même pas réveillonner dans une boulangerie.
C'est ton plan pour le réveillon, c'est une boulangerie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas qu'une boulangerie.
Ouais, c'est pas qu'une boulangerie, tu vas voir. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que vous n'êtes pas arrivé les mains vides.
Eh ben non, jamais.
Elvira.
Moi, j'ai apporté le dessert que je mange depuis ma naissance, pratiquement.
Oui.
Le dessert suédois et un peu british sur les bords, évidemment, tu me connais, à base de pommes, de cannelle.
On va se régaler.
Ouais, ce serait pas mal qu'il passe un petit peu au four à pain, tu crois que c'est possible dans une
boulangerie ? Je pense que ça doit pouvoir se faire. Et toi, qu'est-ce que tu nous apportes ?
Alors, gerbelle la vie, quoi, on boit du champagne pendant les fêtes.
Gerbelle la vie, on est bien
d'accord. Donc on va buller, on va essayer de trouver des beaux champagnes pour tout le monde.
Quelques bulles festives pour se réveiller en Noël. On y va, les amis ?
On y va.
Allez, c'est parti. Ça sent bon.
Voilà.
Ça sent vraiment le pain qui sort du four.
Ça sent le pain, ouais.
Sort de la boulangerie, là.
Et ben, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au fond de cette boulangerie, il y a un petit passage dérobé. Et là, trois pas, et on débarque dans un espace incroyable.
Wow.
Une espèce de loft-atelier, baigné de lumière, il y a une verrière. Vous avez vu les tables d'hôtes.
C'est immense.
Ça donne faim, non? On est chez Boulhomme. Boulhomme, c'est un acronyme, en fait. La boulangerie où l'on mange.
Ah.
Voilà.
Et c'est, voilà, rassurer un peu.
Et c'est le lieu d'un jeune chef flandais qui fait des étincelles à Paris. C'est Julien Dubouet, vous connaissez forcément.
Sûr,
oui. Si on suit la gastronomie, on le suit forcément.
Anosté, entre autres.
Anosté, rue du 4 septembre,
il y avait
absolument.
Un très très chouette bistrot il y a quelques années qui s'appelait Afaria,
absolument,
dans le 15e.
Dans le 15e. Et là, c'est sa dernière affaire, dans le 18e. Bienvenue à Boulhomme. Et je crois que le chef, il est déjà en train de s'activer en cuisine.
Voilà,
en train de nous préparer quelque chose.
On
va
comme un atelier de petits lutins, tu sais, qu'on passe derrière le mur. Et là, d'un coup, on découvre la cuisine en pleine agitation.
On va le voir.
On va déguster.
Hello, Julien.
Ça sort du four. Ça cuisine depuis ce matin.
Oh là 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 là, qu'est-ce que ça sent bon.
Ça, c'est une échine entière de cochon de chez Eric Hospital d'Asparin. Donc il nous fait les échines entières, tu vois, on l'a mis à saler hier, il y a deux jours. On met sel, poivre, muscade, on les pique à l'ail et au thym, et on garde ça à maturer pendant 48 heures minimum.
Ouais.
Et là ce matin, 2 euros dans les fours à pain. À la fin, j'y jette quelques quartiers là, de mandarine, orange, pamplemousse.
Il est couvert de quartiers.
Oui, il faut vraiment que ça prenne le goût.
T'as laissé la peau, c'est bien confit, il y a même les feuilles.
Il y a même les feuilles de mandarine de Corse là. Dessus, on y met quelques grenades pour apporter un peu de fraîcheur, tu vois. Là, elle a confit pendant 2 heures au four. Et maintenant, on a ajouté le jus à milieu de cuisson. Et là, maintenant, on va arroser la glacée là, pour la rendre hyper brillante. Et ça, hop, on pose sur le buffet et les gens, ils se débrouillent.
Et j'imagine que ces agrumes vont apporter une note très fruitée à la sauce. C'est très Noël, en fait.
Fruitée et même une petite amertume. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une échine cochon, c'est très gras. Donc, cette petite amertume, là, c'est hyper sympa.
Tu as cité le nom d'un producteur fameux qu'on connaît bien dans le milieu de la gastronomie, en France et en région.
Ouais.
Eric Hospital.
Eric.
Toi, tu dis Hospital.
Hospital, oui, ouais, c'est comme ça. Que, bon, c'est pas moi, je suis landais, donc moi je peux pas l'appeler Hospital, mais bon, je dis ça parce qu'il s'appelle comme ça. J'ai pas le choix. Comme tu dis, tout le monde le connaît. La première fois qu'on s'est rencontrés, je lui dis, tu travailles avec tout le monde, de toute façon, donc moi je veux pas travailler avec toi. Mais après, les petits que j'avais dans les Landes n'avaient pas la possibilité de me fournir autant de cochons et d'aussi bonne qualité. Donc on a commencé à bosser ensemble. Et là, il y a plus qu'une relation de cuisinier à fournisseur qui est née. Voilà, c'est un ami proche. On va dire.
Il est à Asparin.
Il est à Asparin.
Pas très loin de Bayonne.
Exactement.
Et de temps en temps, il est aussi à Paris. Il est là ou pas?
Ben, on va le trouver. Et c'est lui qui a mené les Chines. Ça fait deux jours qu'il est à Paris.
Ah oui, d'accord.
Allez, on y va. On va le rejoindre. On va à table.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Coucou, comment ça va?
Bonjour Eric, ça
Bonjour.
Va?
Il est donc parisien, le Hospital. On s'installe autour d'une belle table d'hôtes, sous une verrière, il y a une belle lumière du jour. Elle est incroyable cette salle quand même. La table d'hôtes, c'est vraiment le symbole de la convivialité, de la fraternité dans ton lieu Boulhomme, Julien.
C'était pas un concept, c'était une histoire de famille. Chez mon père, ils sont 13 frères et sœurs, donc chez mes grands-parents, il y avait toujours une grande table comme ça au milieu de la salle. qui ont picoré toute la journée dessus. Donc dans mon premier restaurant, j'en ai mis une, et maintenant c'est un peu la marque de fabrique. Donc évidemment qu'ici, sur une salle de 150 mètres carrés, il allait y avoir beaucoup de tables d'hôtes.
Et Boulhomme a un énorme succès à Paris parce que tu as inventé une formule qu'on voit pas beaucoup, si ce n'est dans certains restaurants chinois de qualité moyenne, c'est-à-dire le buffet à volonté.
Oui, buffet à volonté. Oui. Mais, de toute façon, l'idée première, c'était de cuisiner dans les fours à pain. Forcément, quand on cuisine dans un four à pain, c'est les grands plats opulents, pleins de gourmandises, de partage. Donc, il me fallait une grande salle et poser ces plats au milieu de la table sur un grand buffet et que tout le monde se les partage finalement. Donc, je ne pouvais pas faire une cuisine à l'assiette gastronomique, on va dire, en cuisinant dans un four à pain. Donc là, ça a été l'idée. Bon, je suis allé au bout de l'idée.
Donc, on se lève, on pioche, il y a des dizaines de hors-d'œuvre au choix, etc. Est-ce que tu es un habitué, Eric?
Oui, bien sûr. Moi, je viens ici depuis le début. Je me régale. Moi, j'aime ce concept de la table, du plat de partage. Moi, ma vie tourne autour de la convivialité, autour de la festivité. Et je me reconnais un peu dans la famille de Julien. C'est vrai que nous, au Pays Basque, on a des grandes tables comme ça qu'on appelle Escazza. Bon, c'est un lieu dans une ferme où on rentre et où on reçoit toute la famille, les moments de partage. Voilà.
Eric et Julien, on a un peu enquêté, on s'est renseigné. Votre amitié remonte à 2007. C'est vraiment une date dont vous vous souvenez parce que c'était une date où s'est passée la Coupe du Monde de rugby. C'est bien ça?
Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est une belle rencontre, Julien.
Enfin, attends, et une belle rencontre. Il paraît que tu t'es pris un sacré râteau au début quand même.
Ouais, au départ, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au départ, Julien me dit, Eric, je vais travailler avec vous parce que vous travaillez avec tout le monde. Alors, ça m'a vachement surpris parce que nous, on est très petits quand même. Donc, chez nous, c'est une petite entreprise artisanale. Ça m'a un peu piqué, pour vous dire la vérité. En fait, ben, j'ai invité Julien à venir passer un moment en fête de Bayonne. Il est arrivé avec toute une frappée de potes à lui d'enfance.
Des amis depuis l'âge de 5 ans, du rugby.
Et on a passé un moment très convivial et Julien a été surpris de voir que l'entreprise hospitale était en fait à taille humaine, une entreprise artisanale et familiale.
J'ai beaucoup aimé de rencontrer ses parents qui étaient en train d'y bosser dedans. Et... pour moi, voilà, il y avait beaucoup de valeurs que je retrouvais familialement et professionnellement. Donc, bon, voilà, j'ai passé le cap.
Est-ce que, Eric Hospital, ton patronyme hospital a la même étymologie qu'hospitalité?
Hospitalia, en basque, c'était en fait des endroits où sur la route du chemin de Saint-Jean-de-Compostelle, encore une fois, les grandes tables où on recevait les gens, il y avait une espèce de convivialité comme ça, l'accueil, l'hospitalité, je pense que ça vient de là. Enfin, en tout cas, moi, il me semble que j'ai hérité de ce trait de caractère.
Parce que tu as, Eric, commis un livre oui. Qui est bien plus qu'un livre de recettes ou bien plus qu'une déclaration d'amour au cochon. C'est carrément un livre d'amitié. D'ailleurs, il est signé Eric Hospital et ses amis. Il est intitulé « Copain comme cochon », ça veut tout dire. C'est aux éditions Tana. Et là, tu égrènes des moments de partage et des recettes avec des gens que tu aimes beaucoup. Ils sont chefs à Paris, en région. Ils sont vignerons corses. Ils sont écrivains aussi, on va en discuter ensemble dans un instant. C'est une espèce... Alors évidemment, il y a Julien Dubouet. Non seulement Julien Dubouet est dans ton livre, mais en plus avec la fameuse recette qu'on va déguster dans un instant, échine de porc aux agrumes, tu l'as forcément goûté avec lui.
Oui, bien sûr. En fait, Julien, il est tout le temps à la recherche de nouveautés. Il m'a fait goûter cette recette, et c'est vrai que c'est une recette qui est exceptionnelle. Quoi.
Un plat qui braise. C'est sur un énorme moment de partage lors d'une soirée basco-corse à Anost.
Tu évoques effectivement ton lieu, rue du 4 septembre, près de la place de la Bourse.
Oui, oui, c'est ça. Et donc là, j'avais sorti des échines entières et braisées avec des mandarines aux Corses. Comme ça, au moins, on avait les deux régions qui se retrouvaient. Et gustativement, c'était plutôt sympa.
Et cette échine, on pourrait la goûter quand même. On a le fumet, ça nous titille les narines. On sent cette odeur d'agrumes qui emplit la pièce.
Et voilà la bête.
Vous avez vu après ce qui nous tombe dessus là?
Oh le monument!
Vous avez vu la machine?
Mais c'est ce que je vivais tout gosse en famille avec mes parents et chez mes grands-parents. C'est que vu qu'on n'allait pas au restaurant le week-end, on recevait beaucoup, et bien on amenait tous les plats à cuire chez le boulanger. Et c'était à chaque fois des grosses pièces de viande comme ça.
Et grosse tranche pour Elvira, hein, surtout n'hésite pas.
Ah oui, j'ai faim là.
Eric, qu'est-ce que ça te fait de voir tes cochons dans cet état?
Eh bien écoute, moi ça m'a fait énormément plaisir quoi. Là, le plat est sublime, il est sublimé. Elle fume, c'est appétissant, c'est gourmand.
On sent la belle couche de gras grilloté. À l'intérieur, c'est juste rosé comme il faut.
Ça, c'est important par contre. La cuisson est super importante, surtout sur une pièce comme ça qui est marbrée. Quoi.
Oh là là.
Et là, on voit même, tu vois, un petit peu le muscle avec un petit côté gélatineux.
On a une cuisson longue, mais on garde toute cette jutosité là à l'intérieur, quoi. Même si c'est un confit. Ah oui, ça se voit là.
Superbe.
Bon, moi chez moi, j'ai pas de four à pain.
Ouais.
Comment je fais si je veux essayer de reproduire ça?
L'échine de 2 kg, elle va rentrer dans un four. Donc il n'y a pas de souci. Et là, c'est à 180 degrés et on laisse pendant 2 heures.
Et 2 kilos, ça suffit pour quoi? Pour 4-6 personnes?
Non, mais ça réduit plus pas quand beaucoup. Même. Ah non, gras, ça fait pratiquement rien.
Non, non, là, tout est à l'intérieur. Quoi. Puis gustativement, quand on emballe les cochons tardivement, à l'âge d'un an, c'est là que la viande atteint son moment de succulence. Donc pour arriver à ce résultat, on est fait trop patient.
Bon, on goûte quand?
Allez, on y va.
On fait passer les assiettes.
Je vais travailler, je vais vous passer les assiettes
là-dessus.
Petite portion, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a 5 plats différents à venir. Hein. Et sur le buffet ici, il y en a 47 différents. Donc celui qui arrive à faire les 47.
Non, ce qui est incroyable, c'est la peau qui croustille, qui caramélise.
C'est le moelleux, la tendreté et la croustillance.
Extraordinaire.
Et la juteosité.
Le gras est juteux d'ailleurs. Le gras, il explose en bouche. Un bon gras.
Le gros travail, il est sur le produit à la base.
Et justement, Eric, il paraît qu'ils sont très très bien élevés, ces cochons. Comment ça se passe?
Il n'y a pas d'OGM dans l'alimentation des cochons. C'est une alimentation saine, aux céréales. Pas d'antibiotiques. Et on fait ce qu'on appelle, alors c'est pas très joli, mais c'est de l'équitabilité avec les paysans. Donc en fait, l'idée, c'est de rémunérer le paysan et il vit du fruit de son travail. Il est obligé de mettre tout son amour dans ce produit. Donc nous, en tant que charcutier, après, on a la moitié de la route qui est faite. Quoi, en fait,
Tu es à la fois presque boucher et charcutier, en quelque sorte.
Moi, je pense que le métier de charcutier, c'est on prend un cochon entier et on le travaille entièrement, ce cochon. Donc on va le débiter en cru. On peut travailler donc avec les restaurateurs, ce que j'ai fait, et on leur fournit de la viande crue. Mais on peut aussi élaborer de la saucisse, on peut élaborer de la charcuterie cuite, on peut élaborer de la charcuterie cuite dans de la pâtisserie. Donc c'est ce qu'on trouve aujourd'hui avec les pâtes et croûtes, etc. Donc ils sont très à la mode. Et on peut faire des salaisons avec le cochon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler le cochon de la pointe du groin jusqu'à la queue. Ça, c'est très important. Et comme ça, ben, le paysan, il n'a pas à se soucier de savoir s'il va vendre des pieds, qu'est-ce qu'il va faire des poitrines. C'est toi, en tant que charcutier, dans ton métier, d'être bon et de travailler la pièce entière.
Tout est bon dans le cochon, y compris l'échine. Surtout cuisinée comme ça, Julien, elle est franchement impressionnante. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est les quartiers d'orange. Oui. Légèrement confit, encore juteux, sous le palais. C'est vraiment, vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Qu'est-ce qu'on boit? Ouais. Ça, c'est à moi de jouer maintenant.
Parce que je vois qu'il y a du blanc dans nos verres.
Il y a un blanc dans le verre. Il y a 4-5 ans, je me suis fait piéger chez vous. Vous m'avez fait déguster un blanc à l'aveugle. Donc aujourd'hui, que je joue à la maison. Mais aujourd'hui que je joue à la maison, je vais vous faire goûter un blanc à l'aveugle et vous allez me dire ce que vous en pensez.
Alors, c'est Antoine qui va s'y coller.
J'ai déjà une question. Est-ce que le vin est à volonté ici?
Non. Mais c'est marrant parce que je suis en train de réfléchir à une formule pour le faire.
Et voilà, je l'ai trouvé. Comme dans les auberges jadis.
Oh, c'est bon.
Alors, ce blanc.
Bah, on a l'impression qu'il y a des notes d'agrumes incroyables.
Voilà. Alors ça, c'est bon. C'est pour ça que je le sers. Hein. En même temps, il y a un beau travail. Et il y a encore une histoire d'amitié là derrière.
Alors,
je laisse le pro en parler.
J'aime. C'est très frais. C'est pas très long en bouche, mais justement, ça rafraîchit sur quand même notre cochon qui est quand même assez puissant. C'est sur les agrumes, effectivement. Ça rappelle une famille de vins du Sud-Ouest. Et puis il y a le Jurançon qui raconte aussi des histoires très aromatiques et très agrumes.
Bon Antoine, tu te jettes à l'eau. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Une idée pour l'identité de ce vin mystère.
C'est le savon zélandais. Alors ouais. Si on est basque, on serait quoi? Irulegui, allez.
Oh, oh, oh. Mais bravo, la région est trouvée. Et c'est un vigneron qui me tient à cœur. Mais il y a Alexis qui est là, notre sommelier, et qui va pouvoir nous en parler.
Du coup, donc, on se passe sur un Irulegui blanc. Bonjour. Irulegui blanc de la maison Arechea.
Oui, bah, évidemment.
Une cuvée 2009, la cuvée Panchouri.
Extraordinaire vigneron qui donne aujourd'hui toutes ses lettres de noblesse à Irulegui. Vignoble pas facile. Hein. Il pleut quand même jamais. Je regarde dans les yeux sur l'hôpital. On a une très mauvaise idée parce qu'il y a une époque, il y a une coopérative qui faisait des vins un peu rustiques, hein, faut dire. C'était très rugueux et tout. Or aujourd'hui, Arechea, c'est magnifique. C'est sur toutes les grandes tables en ce moment. C'est vraiment la bouteille.
Dans un instant, on va parler champagne avec Antoine Gerbel. On aura un dessert mystère très cher au cœur d'Elvira.
Ça tient à cœur et au corps aussi.
Oui, ça tient aussi au corps. On va voir ça. On va parler de cette formidable aventure de fraternité et d'amitié dans le livre d'Éric Hospital. On va goûter bien d'autres choses de Julien Dubouet, dont un mariage étonnant entre l'huître et le kiwi. Mais je vous propose de partir en vacances. Oui, en vacances, c'est le titre de Séverin, aux atmosphères brésiliennes. Vous allez voir, on est un peu loin des Landes.
Son balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer, La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit rêvé. Laisser le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète. Pour oublier qu'il faudra rentrer, si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
Plus de 24 heures des fêtes de Noël, on va déguster Dresse-le-Couvert dans un endroit très particulier au nord de Paris, c'est le temple de la convivialité Boulhomme. Boulhomme, un acronyme comme la boulangerie où l'on mange. Nous sommes en compagnie d'Éric Hospital, il est éleveur de cochons, charcutier, salaisonnier, asparin, on n'est pas très loin de Bayonne dans le Pays Basque, il y a Elvira Masson aussi évidemment. Qui ne pouvait pas fêter, qui ne pouvait pas oublier une fête de Noël. Il y a notre ami Antoine Gervel qui va nous parler champagne dans un instant et nous sommes bien sûr en compagnie du patron, propriétaire, chef de ce lieu, c'est Julien Duboué, le Landais de Paris, qui fait des étincelles depuis quelques années. Et là, tu es en train de nous préparer un truc assez surprenant. On est un peu éloigné du cochon.
Mais bon, qui dit Noël dit huître. Hein.
Ouais.
Et qui dit fruit de fin d'année dit kiwi pour
non,
moi.
Non, attends. Tu es en train de me dire que tu as associé, marié l'huître au kiwi uniquement par réflexe géographique.
Ben oui, parce que je suis Landais, donc moi je tiens à mettre en avant les produits que j'ai dans les Landes. Et cette recette, je l'ai créée pour un producteur. Voilà, d'accord. Un peu la même histoire que tout à l'heure avec Eric sur le cochon, qui s'appelle Jean-Marc Poix, qui est à Peyrorade, qui est kiwiculteur. Et il est monté au salon de l'agriculture et il m'a dit ah, fais-moi une petite recette là. Et donc je suis venu avec des huîtres, en l'occurrence de chez Joël Dupuche.
Ah, sur le formidable ostréiculteur, huîtres naturelles.
Là-dedans, dans cette préparation, il y a une douzaine d'éléments différents. Donc moi, je n'ai pas planché. Je ne me suis pas assis sur un bureau à écrire des recettes.
Parce que sincèrement, Julien, je pensais que tu t'étais inspiré des conclusions, des recherches d'un scientifique belge qui s'appelle Bernard Lahousse et qui travaille avec beaucoup de chefs étoilés.
T'as raison, c'est bien le genre de Julien.
Et figure-toi qu'il y a quelques années, il a découvert que l'huître et le kiwi partageaient 14 molécules aromatiques en commun. Ça veut dire que ce fruit et ce crustacé ont finalement une palette organoleptique assez proche. Donc toi, c'est plutôt, plutôt l'instinct qui t'a.
J'en suis pas loin, j'ai dit 12 ingrédients différents.
Et ben voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? Explique-nous.
Non, alors là, je vais mettre au fond de la coquille, donc je mets cette préparation. Donc il y a kiwi, j'ai mis un peu d'oignon botte, un tout petit peu de coriandre fraîche, concombre, une pointe de wasabi, un trait de vinaigre de riz, une pointe d'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette. Et dessus, j'ai plein de condiments qui vont aller dessus. Mais la base de la préparation, l'essentiel, c'est celle-là.
Il faut imaginer une espèce de coulis.
Ah, c'est un coulis, c'est un gazpacho. Tout simplement, tout est cru, je viens juste de le mixer. Avec un peu d'avocat aussi pour apporter un peu de rondeur à cette préparation. Et là-dessus, donc je le mets dans la coquille de l'huître. J'ai sorti mes coquilles, mes huîtres des coquilles. Et je vais venir déposer une huître là-dessus. Et à la fin, pour apporter un peu de croustillant, quelques croûtons, une pincée de piment d'Espelette, une touche de fleur de sel, vu que je les ai déjà sortis il y a un petit moment, et de la poudre de jambon de Bayonne desséchée.
Ah, tu peux pas t'en empêcher.
Eh non. Là, c'est pas le choix.
Attention, Elvira Masson,
attention,
s'apprête à gober.
Gobe.
Oui, gobage. Opération gobage.
Je croque en même temps, parce qu'il y a de la mâche.
D'un coup.
Aucun problème de sucrosité. C'est fruité,
c'est ça, voilà.
Acidulé. Ça a du caractère.
Tu m'en fais passer.
Ça chauffe un peu avec le piment d'Espelette.
Je trouve que ça fait assez ton sur ton et c'est délicieux. Le coulis a tendance à renforcer en fait le goût de l'huître. Eric.
Sincèrement, c'est surprenant. J'avoue, là, je m'incline. C'est vraiment, c'est top.
Pour l'instant, sincèrement, là, deux recettes d'ailleurs qui sont très fruitées. L'échine de cochon aux agrumes et les huîtres au kiwi. C'est deux recettes d'ailleurs que nos auditeurs peuvent retrouver. Il est encore temps de les cuisiner pour demain soir. Ils peuvent les retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster un petit mot de votre livre, Eric Hospital, plutôt Eric Hospital et ses amis. C'est quand même la signature de ce livre, avec 75 recettes, copains comme cochons. Et des copains, vous en avez quand même un certain nombre, puisqu'il y a des chefs de Paris et du Sud-Ouest. Alors évidemment, on va citer toute la bande, mais c'est pas exhaustif. Tous ceux qui ont une relation extrêmement fraternelle avec vous depuis des années et que vous fournissez en viande fraîche, mais également en salaison. C'est Yves Candebord, Éric Fréchon, Stéphane Jégot, Christian Etchebest, Thierry Fauchet, Christian Constant évidemment. Ça c'est pour les chefs. Également une petite connexion corse. Je sais que vous avez découvert la Corse et vous y avez beaucoup d'amis.
Ouais, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir découvert la Corse pour mon voyage de noces. Moi j'ai pas cherché à aller à Tahiti, j'ai cherché à aller en Corse, à découvrir ce pays qui m'attirait comme ça. Et c'est vrai que moi tout me plaît en Corse. L'homme, la tradition, le folklore, la mentalité. Et puis après, bon, c'est magnifique, c'est beau. On a plein de points communs avec les Basques. Et donc voilà, j'ai invité Antoine Arena, qui est un grand vigneron.
Grand vigneron de patrimonio.
À patrimonio.
Il y a également son fils, Antoine Marie.
Et les deux, Antoine Marie et Jean-Baptiste, qui sont des personnes exceptionnelles. Il y a Pierre Carly qui fait du miel aussi.
Oh là là, le miel de Pierre Carly.
Voilà, et ensuite, il y a un peu plus bas, il faut redescendre du côté de Porto Vecchio. On remonte un petit peu à Lévis. Et j'ai découvert une ferme auberge qui s'appelle La Pignata. Et la famille de Rocasera, voilà, c'est le papa, les enfants, un cuisine et l'autre avec les cochons.
Formidable ferme d'auberge qui est située dans l'Alta Rocca, dans le sud de la Corse, dans le village de Lévis, ouais. Ce sont des gens absolument incroyables qui sont en quasi-autarcie. Et dans votre livre, il y a de formidables moments de partage avec des bons vivants qui ne sont ni vignerons, ni cuisiniers, mais écrivains. Sébastien Lapacque, par exemple, l'écrivain et critique littéraire pour le Figaro.
On a de la chance d'avoir aujourd'hui quelques grands écrivains qui écrivent avec passion et un grand savoir autour du vin. Et Lapacque en fait partie, oui.
Et ton livre, Eric, a été préfacé par quelqu'un avec qui tu es devenu très très ami, au point d'ailleurs qu'il te fasse presque une déclaration d'amour cochonne, j'aurais envie de dire. Je lis un petit extrait de la préface, on va peut-être deviner de qui il s'agit. « Dans les périodes obscures de l'histoire, il est important que certaines personnes s'élèvent et bravent les interdits. Les mangeurs de cochons présents dans cet ouvrage se sont dénoncés eux-mêmes, ce qui évitera au comité d'épuration antispéciste de jeter leur nom en pâture au réseau de délation digitale. Ce sont en apparence des braves gens, d'honnêtes citoyens, au sourire avenant. C'est généralement ainsi que leurs voisins dépeignent les tueurs en série sur BFM TV. Ce livre étrange réunit des esthètes et des gourmets, des sybarites joviaux qui ne semblent nullement culpabilisés de perpétuer une longue histoire carnivore comme s'ils assumaient leur vice, manger du cochon. » On a deviné qui c'était ? C'est Frédéric Becbédé.
C'est ça. Frédéric, c'est une rencontre. En fait, c'est quelqu'un qui aime vivre et qui partage les mêmes valeurs, qui vit au Pays Basque. Mais il m'a surtout fait le privilège de recréer une recette. Donc il y a des recettes de street food, on va dire ça comme ça. Alors là, on l'a baptisé Beach Food.
Bah là, vu la photo, vous n'êtes pas gêné, vous êtes tous torse nu.
On est torse nu.
Frédéric Becbédé compris. Et voilà. Vous êtes en train de déguster des saucisses, des sardines grillées sur la plage.
Ouais, tout simplement. Alors c'est vrai, quand on est gamin, on buvait de la bière. Là, en l'occurrence, on a eu le privilège de boire un Château Rayas 2001, je crois, de mémoire. Et on s'est vraiment régalé, on a passé un moment exceptionnel. Frédéric a toujours quelque chose à raconter, qui est respectueux des artisans, et voilà, c'est pour ça que je voulais qu'il soit dans le livre.
Est-ce que parfois, Eric, votre métier d'éleveur de cochons et de charcutier vous fait un peu culpabiliser dans une société quand même où les antispécistes, les véganes pèsent assez lourd quand même dans le débat public par rapport à notre consommation de la viande en général, du cochon en particulier?
Alors très sincèrement, moi dans ce discours, je me retrouve pas, je me reconnais pas du tout. Je pense que ce discours s'adresse plus pour les industriels qui sont dans l'intensif, dans le non-respect de l'animal, entre guillemets. Et après, je pense que c'est comme toute chose dans la vie, il faut savoir goûter avec modération et ne pas exagérer. Et voilà, je pense que là, on tombe peut-être dans la bêtise, quoi.
Frédéric Becbédé a une phrase assez juste d'ailleurs dans la suite de sa préface. J'aime les cochons, ce sont des animaux particulièrement sensibles et intelligents. Les mangeurs de cochons doivent cultiver l'amitié et se raconter des blagues en buvant pour oublier leur culpabilité de tuer des animaux aussi adorables.
Ici on a le talent d'un cuisinier qui nous surprend avec ses plats. Voilà, Frédéric il a ce verbe libre et cette façon d'amener... les mots qui sont touchants. Quoi.
Mais là, je pense que c'est pas mal, hein, tous les deux aussi. Vous maniez bien le verbe aussi, l'un et l'autre. Hein.
Il y a un truc, une espèce de préparation de mystère qui vient d'atterrir tel un météorite sur la table d'hôte autour de laquelle on est installé. Non, mais attendez.
On n'a pas mangé de pain encore, on peut manger un bout de pain quand même, non?
C'est du pain donc, mais oui. Ça ressemble un peu à une espèce de pain surprise.
Mais la surprise, je ne la donne pas maintenant, on va couper.
Il faut imaginer...
C'est juste une miche de pain d'un kilo 5,
oui.
Donc sur un pain au levain qui est fabriqué avec nos farines, qui sont cultivées dans les Landes, évidemment avec une population de blé ancien.
Ça, il faut le préciser.
De 27 blés différents, qui sont cultivés dans mon village grâce à des paysans qui sont extraordinaires. Et là, on a cuit un pain dans une cocotte. Donc le rapport entre la cuisine et le pain, une fois de plus. Et à l'intérieur, on va regarder ensemble ce qui s'y passe.
Oh là là, il a dégainé le couteau à pain. Il est en train de le couper en deux. Il faut imaginer une belle miche bien rebondie.
Bien croustillante. Mais à l'intérieur, pourtant, on a un produit froid.
Non mais c'est un pâté en croûte.
Là, qu'est-ce qui s'y trouve? Ouais.
Mais
un
pâté
en croûte de chevreuil et foie gras qu'on en a réussi à cuire à l'intérieur de la miche de pain.
Voilà, c'est un pâté en croûte de pain, c'est un peu ça.
Bon là c'est un peu plus difficile à faire à la maison.
Il faut quand même dire que la tranche est bluffante. C'est-à-dire que vous avez coupé une miche et là on a vraiment quelque chose de très régulier.
Donc là elle est coupée en deux, on a vidé nous l'intérieur de cette miche de pain et dedans on y a mis une farce à chair à saucisse de chez Eric, donc avec de la gorge de porc, des échines de porc. Au centre, on y a un filet de chevreuil, donc du chevreuil de chasse qui vient des Landes, que mon père a nous fait monter toutes les semaines.
C'est complètement décadent.
Et une belle tranche de foie gras. Il est hyper croustillant. On pose ça au milieu de la table comme un morceau de pain, sauf qu'en fait, c'est l'entrée.
On veut goûter.
Et on va s'en faire une tranche. Hein.
Ah ouais, carrément. Incroyable.
C'est quand même génial comme invention. Hein.
Oh.
Bon, moi, je sers à manger, mais je m'aurais bien un coup avec ça. Hein.
Il y a la note giboyeuse du chevreuil. Qu'est-ce qu'on va boire? Bah justement, je pense qu'on pourrait boire un peu de champagne. Antoine Gerbel est en train de faire les niveaux.
On va déguster sur France Inter.
Oh wow. En voilà un bruit festif et c'est sans trucage. Ça se passe à Boulogne chez Julien Dubouet en présence de Eric Hospital, le fameux charcutier, salaisonnier, éleveur de cochons à Asperin, Elvira Masson et Antoine Gerbel avec des cuvées de champagne. Difficile d'échapper au champagne pendant les fêtes de fin d'année quand même.
Oui, mais difficile, on a l'impression qu'on est obligé, que c'est un passage obligé. Alors oui, c'est un mauvais passage obligé si on se dit on va acheter du champagne avec, on va dire, très peu de moyens. Donc on va chercher le moins cher sur ce qui est la grande distribution. Là, je dis stop, arrêtez tout. Prenez un bon vin blanc, prenez un bon vin rouge, mais n'allez pas sur ce territoire-là, c'est clair. Les champagnes d'entrée de gamme, c'est une catastrophe, ça s'améliore pas, ça commence un peu à se dégager, mais... C'est un moment de fête, là, Noël, donc il faut vraiment... Allez, on met un peu d'argent de côté, mais on peut trouver quand même de très bons champagnes aux alentours de 30 euros, entre 20 et 30 euros. Et voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais envie de développer aujourd'hui.
Peut-être boire un petit peu moins, mais de meilleure qualité, car vous nous confirmez que les champagnes entrée de gamme qu'on trouve au rayon vin des supermarchés, il vaut mieux les laisser de côté.
Il y a les grandes marques font bien leur travail, vous les connaissez tous, on ne va pas les citer. J'ai listé des petites questions justement à propos de la consommation du vin, du stockage et puis du champagne et puis aussi de ces idées qu'on a forcément. Le petit vigneron, c'est forcément un petit vin, on va dire acide, pas très mûr, et les grandes marques, c'est forcément génial. Et puis si vous voyez une marque que vous ne connaissez pas, elle est forcément minable. Bah, tout ça, bien évidemment, ça ne tient pas debout. Alors, la première idée reçue que je voudrais rappeler, c'est, on va commencer par la consommation, vous savez, cette cuillère qu'on continue à voir dans les frigos, dans le goulot de la bouteille de champagne ouverte.
Antoine, ça m'arrive de le faire à la maison, pour tout vous avouer.
Alors, ça amuse les enfants. Bon, il y a plein de petits bouchons qui sont très bien faits, tout simples, qui ne coûtent pas cher, qui ferment vraiment hermétiquement une bouteille de champagne. Et une bouteille de champagne, moi je consomme une bouteille de champagne sur 4-5 jours, hein, bien fermée. Donc c'est aussi l'intérêt, parce que là, la pauvre petite cuillère, elle est jolie, elle fait bling bling, mais
ah
elle
bon,
conserve...
4-5 jours, Antoine ?
Que 4-5 jours, quand je suis malade. Après, on me pose souvent la question si le Magnum.
Oui.
Le Magnum est-il meilleur que la bouteille pour la conservation du vin, bien sûr, du champagne aussi. Et je vous rappelle, comme dirait souvent notre ami Jérôme Gagnez, hein, le Magnum est le meilleur contenant quand on est deux et quand l'autre ne boit pas.
Bravo.
J'ai cité mes sources, Jérôme Gagnez. Non, mais bien évidemment, si on a envie de faire la fête, la qualité du champagne en Magnum est toujours supérieure. Alors, c'est un petit peu plus jeune, donc il faut garder. Alors là, vient la question du stockage.
Oui.
Alors, stocker son champagne, stocker du champagne, mais le champagne, ça se boit, ça se garde pas. Mais non, le champagne, bien évidemment que ça se garde. Le champagne peut se garder debout. Les études nous ont démontré, oui, il y a le comité interprofessionnel des vins de champagne, ce sont des grands professionnels qui étudient plein de choses techniques autour du champagne, ils se sont rendus compte qu'une bouteille de champagne debout se conserve mieux qu'une bouteille de champagne couchée. Tout simplement parce que dans du champagne, il y a un peu plus d'acidité, il y a un peu plus de mouvement à cause du gaz carbonique et que ça attaque plus le liège. Donc si vous avez envie de garder notamment des magnums, on en parlait, pour vos enfants années de naissance, gardez-les debout dans un coin de cave, dans une bonne cave, attention, une cave qui ne monte pas au-dessus de 14 degrés. Ça, c'est aussi important. Après, on a cette idée de millésime. Le champagne millésimé, qu'est-ce que c'est ? Alors, champagne millésimé, en champagne, historiquement, on mettait l'année, le millésime, que sur les très grandes années. Sauf que vous l'avez tous remarqué, depuis 20 ans, le réchauffement climatique est là. Donc, une grande année, c'est une année plutôt mûre. Donc, elle se succède en champagne. On n'a jamais vu autant de grandes années mûres. Mais ça ne veut pas forcément dire un grand millésime. En ce moment, dans le commerce, il y a deux très belles années. Pour le jeune, il y a 2012, les 2012 qui arrivent, qui a un millésime magique. Alors là, on peut dire, vous pouvez quasiment acheter les yeux fermés 2012 en champagne. C'est un très, très grand millésime. Il y a 2008 pour les maisons qui gardent un petit peu, qui sont aujourd'hui toujours en vente. Et voilà, c'est les deux grands millésimes qu'il faut observer. Allez, j'accélère un petit peu sur les a priori. La coopérative en champagne, ça fait que du raisin, ça fait pas du bon champagne. Mais c'est pas vrai, il y a plein de petites coopératives assez super. Je dois citer quand même Mailly à Mailly Grand Cru,
oui.
Panier à Château-Thierry, c'est super. Palmer à Reims, et j'oublie pas Devaux.
Oui.
Devaux, je veux citer Devaux parce que c'est une grande coopérative dans l'Aube. Ils viennent de sortir une cuvée, magnifique cuvée parcellaire. Ça coûte que 30 euros, c'est du pur pinot noir. C'est vraiment un de mes grands coups de cœur.
Donc que 30 euros, on rappelle que c'est une somme.
Oui,
on est dans le contexte d'un vin très festif,
mais
exceptionnel, pour des grandes occasions.
Moi qui connais le prix, le rapport qualité-prix en champagne, à la vogue, c'est un champagne que j'aurais mis bien entre 70 et 80 euros. Enfin, forcément, les marques connues sont que des grandes marques qu'on ne citera pas. Et ben moi, je vous dis non, parce qu'il y a des petites maisons. Elles ont décidé, parce qu'elles sont encore familiales, de ne pas grossir. Et on revient un peu sur notre propos de ce partage familial. Et je vous citais des marques que vous connaissez peut-être. Diébol Valois, R. Pouillon, Le Noble, Veuve Fournie et Jacquesson que j'ai là.
Ah, c'est ce qu'on a dans le verre.
Non, pas encore dans le verre. C'est une maison à Dizy. Voilà les maisons familiales qui sont vraiment au cœur du champagne. Enfin, ce que vous avez dans votre verre.
Ah, c'est celui-là.
Alors, on ne pouvait pas parler de la champagne sans parler des vignerons, bien évidemment. Cette magnifique famille de vignerons que je suis, qui est aujourd'hui, je le rappelle, peut-être en France, le vignoble qui bouge le plus du côté des vignerons. Là, on est chez Jean-Marc Sélec. Jean-Marc Sélec avec une cuvée qui s'appelle Sol Essence, 7 villages. Voilà un vigneron qui a repris les vignes de famille. On a 6-7 euros. C'est l'assemblage de sa cuvée. C'est du 2015. Équitable dans les trois cépages champenois, chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Goûtez cette bulle. Moi, je trouve que c'est une bulle incroyable.
C'est une
Et alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être déranger beaucoup de champenois, mais c'est une base de 2015. Je parlais des années très chaudes en champagne. Et ben, vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu au Prosecco ? Il faut savoir qu'en ce moment, dans les champagnes, il y a ces notes sudistes qui commencent à arriver.
Ça veut dire que c'est une bulle un peu moins fraîche, un peu plus ronde ?
Un peu plus ronde, un petit peu plus sucrée, un peu plus pâtissière. Oui. Voilà. Et on est un peu sur les agrumes et je retombe sur mes pieds.
Et ben voilà. Et la boucle est bouclée.
Et d'ailleurs, chez Boulhomme, quelle est la politique autour du champagne ?
Même que j'ai en face avec Eric, la même que j'ai avec le kiwiculteur, la même que j'ai avec tous les producteurs avec qui je travaille. Ça a été simple. On a évidemment beaucoup de maisons de champagne qui sont venues nous draguer pour travailler avec eux. Et bien, j'ai dit, très bien, posez-moi toutes vos bouteilles. Et on a pris un après-midi à 12 de mes employés, de mes collaborateurs. Et on a goûté 12 champagnes à l'aveugle. Qu'est-ce qui est sorti ? 3 champagnes de petits vignerons.
dont deux du même vigneron qui s'appelle Genet, qui est à Chouilly.
Michel Genet.
Michel Genet, qui est exceptionnel pour moi, qui est là normalement. Et bien, attends, parce qu'il a. Mais c'est magique, hein. Non, mais en plus, c'est pas des conneries. Hein. C'est pas de la télé ni de la radio, là.
Il claque des doigts, tous ses producteurs ravoulent. Il faut le goûter maintenant.
On va le goûter et on va le goûter sur Loire. Moi, je vais partir en cuisine, aller glacer une noix farcie que j'ai entière. Et on va goûter un champagne magnifique de chez lui qui se marie super bien. Donc, un champagne de table.
Et juste le temps de le goûter pour prolonger ce que disait Antoine Gerbel sur les. Champagne de supermarché à prix très compétitif. Est-ce que vous connaissez le sketch de Manu Payet dans son dernier spectacle Emmanuel ?
Sur le champagne atroce.
Ah ouais,
je devrais pourtant.
Il raconte un très très mauvais trip autour du champagne, je vous propose d'écouter.
Mec qui arrive dit ben voilà, j'ai trouvé un truc, c'est une petite propriété. Non, c'est pas une petite propriété. T'as acheté ça à la seule épicerie encore ouverte. C'est un champagne qui se fabrique dans cette épicerie. Le mec, il le fabrique dans l'arrière-boutique. Il lui a donné un nom français pour faire genre c'était la France. Il a appelé ça Michel Franpin. Ça n'existe pas. 80 balles, allez hop, hop, on te le vend chaud. Tu le mets dans la lumière, tu sais, il n'y a pas de bulle dans son champagne. Tu vois, il y a une grosse bulle assise au fond de la bouteille qui fume une clope. C'est lui, mec. Alors, on a acheté du Franpin. On a envie de faire les cons, apparemment. Tu vois, moi, ça, je la mets sous l'évier pour le jour où je dois le déboucher, l'évier.
C'était le sketch de Manu Payet sur le champagne Michel Franpin. Vous l'avez jamais bu, celui-ci, Antoine ?
Si, j'ai l'impression de l'avoir bu 1000 fois, malheureusement.
Bon, dans nos verres, heureusement, on monte un peu en gamme avec le fameux Genet, la cuvée fétiche de Julien Dubouet.
Avec une noix en face de nous. Et alors là, c'est très drôle, c'est qu'on parle terroir. Il n'y a qu'un seul nom qui s'appelle champagne, mais le terroir, c'est plein de villages. Et on est à Chouilly. Chouilly, vous avez senti cette petite bulle, cette délicatesse, ce côté mousseux. Eh bien, voilà un accord très intéressant.
C'est vrai que c'est très
crémeux. C'est très crémeux et on a une noix qui a quand même beaucoup de force. Eh bien, on ne va pas mettre un gros rouge qui va rouler des épaules et nous plaquer. Non, on prend le petit gars qui court très vite et qui va aller directement au milieu des poteaux. Ben voilà, on a notre Chouilly 2012 de Genet.
Je suis à deux doigts de tomber dans les pommes avec cette oie farcie.
Oh, c'est ça monte à la tête. Hein.
Qu'est-ce qui donne la touche sucrée de la farce ? C'est incroyable.
Il y a des marrons.
Oh là là. Oh.
Donc ça, et la recette de la base, de toute façon, je ne vais pas mentir, hein, moi je ne fais pas de recherche, hein, c'est la même recette que la farce des pâtés en croûte qu'on a mangé tout à l'heure.
Et ben voilà.
Il y a juste des marrons dedans.
Prodigieux. On va devoir passer au dessert malheureusement, Julien.
Allez, allons-y.
Mais juste après, une petite pause musicale.
The Good, The Bad and The Queen, on écoute Maryland.
Leaving now this
En ce dimanche 23 décembre, c'est le Noël dont on va déguster sur France Inter avec Julien Dubouet, le chef proprio de Boulhomme, et Eric Hospital, son grand copain, charcutier, salaisonnier, éleveur de cochons à Asparin. On était dans l'arrière-boutique, dans un superbe loft atelier de 500 mètres carrés, sous verrière, très très beau lieu, qui a beaucoup de succès auprès des Parisiens et même de gens qui viennent de beaucoup plus loin. Mais on est revenu dans l'avant-boutique. Et l'avant-boutique, faut se souvenir que c'est d'abord une boulangerie, pâtisserie, dirigée par quelqu'un qui a un sacré talent.
Mathieu Dalmet. On s'est rencontrés, écoute, il y a un an, où je lui ai parlé de ce projet un peu fou. Donc je cherchais un chef pâtissier, mais je lui ai dit, est-ce que tu as une petite attirance pour le pain? Parce qu'il va falloir qu'on fasse du pain. Et il m'a dit, je suis prêt à jouer le jeu. Bah, sauf qu'on a planché pendant un moment. On a été formés les deux par un mof, Sylvain Herviot, et derrière Mathieu a mis en avant cette pâtisserie parce qu'il a un talent hors pair, et en plus de ça dans le pain aussi, où on avance et on se perfectionne tous les jours quoi.
Il y a pas mal de boulot, surtout qu'on approche des fêtes là, donc on y est même, donc bah, pas mal de travail, donc on s'organise, c'est tout nouveau pour nous, enfin pour moi un peu moins, mais pour Julien, pour le reste de l'équipe, donc
ouais, c'est
à moi aujourd'hui de transmettre un peu tout ce que j'ai pu apprendre dans mes années d'avant, ce savoir-faire de boulanger-pâtissier, enfin boulanger acquéri depuis peu.
Et Mathieu, en plus du pain, voilà, met son talent sur les pâtisseries. Bon, là, évidemment, hein, qui dit Noël dit bûche. Hein. Donc, il a fait des bûches, on va dire, plutôt simples à réaliser. Il va en parler beaucoup mieux que moi, mais très goûteuses.
Qu'est-ce que ça t'inspire, ces petites bûches?
Ah bah, ça m'inspire plein de bonnes choses. Il y a une bûche chocolat
sur
notre gauche et une autre bûche, je ne sais pas. Disons qu'il y a une bûche couleur chocolat et une bûche couleur ivoire.
Donc bah, déjà l'idée c'était de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait ici, au concept de Boulogne. Donc la simplicité et surtout sur les goûts. Donc qui dit fête dit gourmandise. Donc tout de suite on a pensé chocolat et on s'est dit qu'est-ce qu'on mettrait avec le chocolat, du caramel et de la fleur de sel. Des choses efficaces qui marchent. Donc on a un petit croustillant fleur de sel, cacao. Ensuite on a une mousse très légère au chocolat. Et au cœur, on a un insert avec une crème qu'on appelle une namelaka au chocolat caramélia. Donc une namelaka, en fait, c'est juste un mot japonais qui veut dire très crémeux.
Oui. Et la bûche blanche?
Donc là, il y a vraiment une histoire derrière. C'est à la rentrée, Julien, il m'a dit « Mes parents, ils ont cueilli quelques murs, je t'avais fait monter sur Paris. » Bon, j'ai vu arriver
25 kilos de murs.
25-30 kilos de murs, il m'a dit « Bah, débrouille-toi. » Donc du coup, on a associé la mûre de chez Julien avec la noix de coco.
Voilà. Donc, et une touche de citron vert. T'as rajouté après une touche de citron vert.
Voilà. Là, on est dans un dessert fruité, tout en fraîcheur, très agréable, comme final sucré d'un réveillon.
C'est ça.
On peut goûter quand même?
Ah, mais on y va. Mathieu va venir nous les découper. Hein.
C'est parti.
Mais je crois même qu'il a une autre petite surprise. Hein.
Par à table?
Sur France Inter, on va déguster.
Nous sommes de retour autour de la table d'hôte de Boulhomme pour déguster ces bûches, signées Mathieu.
Allez, mets-nous un petit bout de chaque. Hein.
Allez. Eric Hospital qui prête main forte et qui découpe la bûche à la noix de coco.
C'est comme s'il coupait une tête de cochon. Elle va être belle la bûche.
Elle va être à la schlag.
Oui, c'est ça.
Ça, on sait la main.
Elle
vient.
Merci. Ah, moi j'ai hâte de goûter la noix de coco.
Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que c'est très très simple hein, comme dispositif.
Ah, ouais.
Parce
oui,
que les bûches, il n'y a pas de chichi. C'est... Là, on en peut plus,
Mathieu l'a bien résumé tout à l'heure.
Je vois pas le petit lutin avec sa scie sur le.
C'est possible d'avoir des cuillères ou pas?
Envoie un peu de cuillère de couvert qu'il y a sur le buffet, s'il te plaît. Très bien, super, merci Alexis.
On commence par la blanche, non?
Ouais.
À la base, c'est quoi? C'est un biscuit coco?
C'est un financier.
Financier coco.
Financier la coco, et on a fait un croustillant avec du miel, des amandes, du chocolat blanc, de la fleur de sel.
Les textures sont géniales.
Bah, vous voulez...
Le moelleux, du financier, le craquant, du biscuit.
C'est un régal, hein, bravo.
Merci.
Et ça reste, c'est pas trop sucré, c'est très sur la fraîcheur.
Oui, bah, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait vraiment quelque chose de frais, de léger pour finir le repas simplement, quoi. Et puis même la tendance aujourd'hui dans la pâtisserie, c'est de moins en moins de sucre et aller sur l'essentiel, sur les goûts des produits.
Voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est que l'acidité de la mûre compense le côté qui peut être parfois un peu sucrailleux de la coco, qui peut être un peu écœurant et un peu too much, surtout quand il y a des textures un peu mousseuses, enfin un peu entremets ou un peu...
Pour moi, la coco, on la sent plus dans le biscuit finalement que dans la mousse coco.
Le biscuit est hyper parfumé.
Et alors, ces deux bûches, on peut les trouver à la boulangerie, elles sont...
Ah oui, bien sûr, devant, là où on était tout à l'heure, c'est une boulangerie pâtisserie pure. Donc là, on est ouvert pendant toutes les fêtes et évidemment qu'on vend les bûches, le pâté en croûte et tous les plats festifs de Noël que l'on a. On va tout vendre en vente à emporter en boulangerie pendant toutes les fêtes.
Jeu de texture sur la deuxième bûche au chocolat. Un biscuit assez croustillant.
Il est très croustillant.
Une mousse très onctueuse, très chocolatée aussi. Mais en même temps, assez... assez ronde, assez chocolat au lait.
Bah en fait, on est parti sur un chocolat facile d'accès, on va dire. On n'est pas parti sur un chocolat trop marqué, avec des parfums type. On est vraiment parti sur un chocolat qui plaît à tout le monde. Et puis, quand on a rajouté ce côté un peu caramel aussi dans l'insert, bah, tout de suite, ça parle. Enfin, donc, c'est un produit très facile à aborder et qui plaît assez facilement.
Est-ce que notre éleveur de cochon, Eric, est aussi bec sucré ?
Ah, moi j'aime bien là. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'en fait, pour moi, le sucre c'est un masqueur de goût. Et là, c'est pas trop sucré. Et moi j'aime bien cette évolution de la pâtisserie aujourd'hui où on réduit les comme nous, hein, quand on réduit les taux de sel dans les produits. Et j'ai une question. Est-ce que le chocolat vient des Landes ?
Non, malheureusement, celui-là non. Impossible. Pourquoi il y a du chocolat au Pays Basque ?
Bien sûr, oui. Il y a quelqu'un qui torréfie du chocolat aujourd'hui à Vaigory. Ouais.
On va déguster.
Du chocolat, Elvira, on passe au dessert à la pomme.
C'est ça.
Maison. Julien, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'on a sous les yeux ?
Ah ben là, je vois une... Déjà, moi, ça me parle parce que je vois une cocotte magnifique et qui a vieilli, un peu fissurée, fendue.
Elle est fissurée.
Qui était à ta maman, non ?
Ouais, qui est toujours ma maman.
Et ben voilà.
D'ailleurs, à l'heure qu'il est, ma mère devrait être en train de faire ce gâteau, mais elle ne le fait pas parce que je suis ici avec son plat. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on va manger demain. Ah, on est
génial,
très, très mal demain.
Génial.
Et dessus, il est recouvert d'une pâte feuilletée.
Ouais.
De quoi s'agit-il ?
Pour moi, Noël n'est pas Noël sans ça. C'est le Old English Apple Pie qui, malgré son nom, n'est pas English, mais Swedish, donc suédois. C'est le dessert que ma mère me prépare depuis que je suis née. Dans ce vieux plat en terre cuite, complètement fendillé, comme tu le faisais remarquer, Julien. C'est un plat qui va pas tarder à rendre l'âme, d'ailleurs. Mais pour moi, pas de Noël sans ce dessert, parce que voilà, Noël, sans les rituels, je vois pas l'intérêt de fêter Noël. Alors la recette du Old English Apple Pie, elle ressemble à ça, elle est plus vieille que moi. Tu l'as dans tes mains, Eric.
Eric,
c'est une fiche cuisine.
Il y a une fiche qui est toute vieillie.
Oui.
Elle est magnifique, elle est jaune, elle vieillit par le temps. Et moi, franchement, ça fait penser aux recettes qu'on découpait.
Mais c'est ça.
Souvent, les vieilles des années 70, c'est magnifique.
Alors c'est vraiment
là,
suédois dans le texte.
C'est un magazine féminin suédois qui s'appelle Femina, dont je ne connais même pas l'existence. Et elle est effectivement jaune et pleine de traces de doigts. Donc pour faire ce Old English Apple Pie, qui est donc suédois, il faut des pommes, pratiquement 1 kg, détaillées en quartier, de la taille de segments d'orange, très précis, des Boscop ou des Canada, rien d'autre. Il faut évidemment deux pâtes feuilletées pur beurre. Idéalement, il faudrait que je sache faire la pâte feuilletée, mais ça n'existe pas dans ma vie. Des amandes mondées hachées, des raisins secs, du sucre de canne complet, moi j'ai pris du rapadura, une cuillère à soupe de farine, de la cannelle évidemment, on est en Suède, donc on blinde de cannelle et du sucre,
forcément.
Ça n'existe pas, c'est toujours trop sucré, trop de cannelle en Suède. Zeste d'un citron, zeste d'une orange, et moi j'ai ajouté un peu de ce que j'avais sous la main, les grains d'une gousse de vanille, un peu de poudre des Bulgares d'Olivier Rollinger, en me disant que ça ne pouvait pas nuire. Hein. On abaisse une première pâte feuilletée dans ce moule en terre cuite, mais si on n'a pas de moule en terre cuite, on fait autrement. L'idée c'est vraiment de faire une paille, quoi, une tourte, donc il faut que les bords soient assez hauts. On la cuit à blanc pendant 10 minutes, puis on tapisse de ce mélange composé de pommes et mélange d'épices, amandes, raisins, sucre, évidemment morceaux de beurre, puis repomme, remélange d'épices, amandes, sucre, zeste, re-beurre, repomme, re-beurre, jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur.
Ouais.
Et là, c'est pas compliqué, on retapisse d'une pâte feuilletée.
Et on casse la croûte.
On dort au jaune d'œuf.
Ah oui, non.
Ou, vous savez ce que j'ai découvert sur cette fiche recette, fiche cuisine ? On peut aussi dorer avec du café au pinceau. Bon, moi, je tombe de ma chaise, je ne sais pas. Donc, j'ai mélangé quand même café et jaune d'œuf. Et donc, voilà, c'est
réussi.
C'est semi-approximatif.
Parce que ce feuilletage est bien doré.
On fait 4 petits trous pour que ça puisse. Les petits trous sont faits.
Mais
et on découpe.
Qu'on a le droit.
Et juste la cuisson, c'est combien de temps ?
Ah oui, pardon.
Non, on veut la cuisson. Le temps de cuisson.
35 minutes à 180 degrés. Plus, sur la fiche cuisine de 1961, je pense. Pardon, maman.
35 minutes.
Là, il est écrit 25 minutes. Moi, j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait même 40 minutes.
Et là, il ne nous reste plus qu'à casser la croûte.
J'ai quand même un peu honte d'apporter ça dans une boulangerie-restaurant.
Julien est armé d'un couteau et d'une cuillère.
Évidemment, les Suédois, ils mangent plutôt ça avec une glace vanille. Moi, je recommande plutôt avec une crème un peu acide.
Ça a l'air bien. Waouh.
Bon, on commentera une autre fois, non ?
On va faire des petites parts légères de 1,5 kg chacune.
La pâte est assez cuite ou pas ?
Dessus, c'est sûr.
C'est surtout l'appareil qui est bon. Hein.
C'est un kumniaman suédois avec une croix basque dessinée sur le dessous.
Le truc, c'est 2500 calories. T'as fini le repas de Noël, tu prends ça, après tu fais l'assiette.
En vrai, c'est un peu le principe d'un strudel aux pommes.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà. Ça sent très très bon.
Mais ça sent Noël, surtout cette cannelle.
C'est
vrai ? Ah ouais.
Vous savez que c'est la première fois que je le fais, parce que j'ai pas le droit de le faire, c'est ma mère qui le fait.
Ouais, très bon.
Oh là là, le pied, non, c'est franchement, c'est très bon.
La pâte est assez cuite ou pas? Si je l'ai raté, ma mère va me tuer. Hein.
Je suis au-dessus du plat là et je prends les effluves.
C'est magique.
C'est vrai?
Ah ouais.
Franchement, bravo le gars.
Boudjul, Boudjul. Ça veut dire joyeux Noël en suédois.
Dans ce réveillon de Noël chez Boulhomme, arrosé, copieux, on n'a malheureusement plus de place, mais il y a encore un bouquet final, une petite surprise signée Julien Duboué. Oh là là, c'est quoi ce monument?
Elle arrive tous les week-ends, tous les samedis, dimanches, au milieu du buffet. C'est une pièce montée avec des petits choux, vanille. Ça dépend des week-ends. Chocolat, café, pistache, fraises quand c'est la saison, etc. Et c'est Mathieu Dalmé, évidemment, qui s'occupe de ça. Et ça, ça ravit mais un grand, grand nombre de clients.
Tous les mariés dans la salle.
Mais oui, parce qu'il a raison, Antoine Germel. C'est vrai que ça rappelle un peu les mariages des années 80. On l'avait complètement oublié. C'est vraiment une pièce architecturale, une espèce de pyramide de choux à la crème, caramélisée.
Sans oublier le socle de nougatine.
Sans oublier le socle de nougatine, c'est très important.
Et les applaudissements des gens quand on l'amène. Mais moi, ça me fait... On croirait qu'il y a une communion ou un mariage tous les week-ends, finalement. Donc maintenant, on en fait deux. Un pour le premier service du brunch, un pour le deuxième service du brunch. Une autre pour le deuxième service.
Et c'est encore le pâtissier Mathieu qui s'en occupe?
Ah ben oui, ouais, moi ça, je pense que j'en ai fait une ou deux quand j'étais gosse, mais elles étaient beaucoup plus penchées.
La pièce montée, l'ancien nom de cette prouesse architecturale pâtissière, c'est le croque-en-bouche. Après, le tout, c'est qu'on n'ose pas vraiment casser un monument pareil.
Ah si, si.
Il suffit d'attaquer par l'eau.
Comment on s'y prend?
On attaque par l'eau. Comment on s'y prend? Avec les doigts.
Petit chou d'un bout
de cuillère.
Et on trinque un coup quand même pour se quitter?
Allez, avec grand plaisir.
Et joyeux Noël,
je peux pas avoir un chou à la crème quand même.
Joyeux Noël.
Bravo Eric.
Joyeux Noël.
Je goûte le tout premier chou, j'ai l'honneur de goûter le sommet de la pièce montée. Oh, la qualité de la pâte à choux.
La qualité de la vanille aussi.
Ah ouais, et le sucre qui croustille. Bravo. Hein. On est obligé de se quitter les amis, malheureusement c'est déjà fini. Ton livre, Eric. Eric Hospital et ses amis, copains comme cochons, 75 recettes du groin jusqu'à la queue, c'est aux éditions Tana, préfacé par Frédéric Becbédé, ton grand copain de Guétari. Et c'est beaucoup plus qu'une déclaration d'amour pour le cochon, c'est une déclaration d'amitié pour tous ces chefs, ces vignerons, ces bons vivants, ces écrivains qui t'ont accompagné dans cette aventure éditoriale. Merci d'être venu, Eric.
Merci de m'avoir invité, François, Elvira et Antoine.
Julien Duboué, Boulhomme, tu nous en rappelles l'adresse?
Alors, 181 rue Ordonnaire, dans le 18e. Et ravi de vous avoir reçu. Et nous, moi, je repars en cuisine avec mes parents et on va vous recevoir pendant toutes les fêtes parce qu'on a ouvert toutes les fêtes.
Toutes les fêtes?
Oui, on n'arrête pas jusqu'en août.
Avec maman qui va s'occuper de l'oie farcie.
Exactement, oh là et là mon là. Père de la garbure irlandaise.
On va venir regoûter ça. Signalons aussi que tu as d'autres adresses. Anosté.
Exactement, Anosté au 6 bis rue 4 septembre. Et voilà, et les petites, on va pas en parler.
L'émission a été réalisée par Laurent Thomas avec Nadia Chougui à la préparation, Arthur Gerbeau et Yves Lehors. Merci beaucoup à la technique de la Maison de la Radio et de France Inter. Merci aussi à Mayeul, notre stagiaire de 3e qui nous a accompagnés dans cette belle aventure de bon vivance. La semaine prochaine, pour la dernière émission, retour dans nos studios de la Maison de la Radio, pour une émission un peu spéciale. On va déguster, fait le bilan gourmand de l'année 2018 avec les chroniqueurs et les chroniqueuses dont on va déguster presque au complet. Vous en serez, Antoine Gerbel et Elvira Masson, la semaine prochaine, juste avant la Saint-Sylvestre. Nos adresses coup de cœur, nos meilleures recettes, les actus gourmandes qui ont marqué l'année 2018. D'ici là, on vous souhaite, chers auditeurs de France Inter, un très très joyeux Noël et de très belles fêtes.
Joyeux Noël !
Bonne faim, bonne soif, restez quand même raisonnables et on se retrouve dimanche prochain si vous avez encore faim.